19h, vous êtes sur Europe 1.
J'ai les boules, je veux bosser. Et si les choses ne reprennent pas leur cours normal, je vais faire un dépôt de bilan. J'ai créé ma boîte, j'ai créé mon bar et je veux pas le laisser tomber.
La pression s'accentue sur le gouvernement. Les restaurateurs, les petits commerçants ne comprennent toujours pas pourquoi ils ne peuvent pas rouvrir.
Oui, nous serons à Lyon, où ils ont de nouveau fait entendre leur voix aujourd'hui, à Cannes avec Florence Kamerman, libraire et rebelle, mais qui commence à en avoir assez des descentes aussi de police.
À Marseille, les pompiers, épaulés par des chercheurs, traquent le virus du Covid dans les eaux usées et ça marche, leur travail a permis d'éviter des clusters.
Août 2015, l'attaque du Thalys, le principal accusé reconnaît les faits au premier jour de son procès.
Et puis avec Didier François, on reviendra sur les reproches d'Emmanuel Macron à l'encontre de la presse anglo-saxonne. Il estime qu'elle ne comprend pas la laïcité à la française et déforme ses propos sur l'islam.
La tendance météo avec Anissa qui nous a retrouvés en studio. Le temps redevient sec, ma chère Anissa, demain.
Oui, après la dissipation des nombreux nuages bas de la matinée, la journée de demain sera agréable et douce. Alors plus au sud qu'au nord, mais ça restera une journée très sympa. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Une lumière qui s'allume sur le front de l'épidémie, un peu plus de deux semaines après le début du reconfinement. Nous reprenons le contrôle, dit aujourd'hui le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique, mais le ministre poursuit. Attention, il serait pour autant tout à fait prématuré de crier victoire et de relâcher nos efforts, avertit Olivier Véran, alors que les petits commerçants réclament à cor et à cri l'autorisation de rouvrir.
Et ils ont de nouveau fait entendre leur voix ce lundi à Perpignan ou à Lyon pour la troisième fois, Jean-Luc Boujon. Environ un millier de commerçants et d'indépendants derrière un slogan « On veut travailler ».
Oui, un slogan simple répété en boucle sur tout le parcours de la manifestation et des commerçants, des patrons de bars ou de restaurants très remontés contre le gouvernement qui seraient en train, selon eux, de tuer à petit feu leurs établissements. Une perspective insupportable comme est venu le crier Charlotte, patronne d'un bar dans le 7e arrondissement.
J'ai les boules, je veux bosser, je travaille normalement 15 heures par jour et là je branle rien depuis un mois, je craque. Mon entreprise est en train de couler, je suis en train d'écumer la deuxième partie de mon PGE et si les choses ne reprennent pas leur cours normal, je vais faire un dépôt de bilan. J'ai créé ma boîte, j'ai créé mon bar et je veux pas le laisser tomber, bordel!
Voilà, des interdictions d'ouvrir qui entraînent des réactions très vives chez les commerçants. Illustration aussi avec Constance, responsable d'un magasin de déco dans un quartier chic de la ville. Elle se dit prête à désobéir si les magasins ne peuvent rouvrir début décembre.
Je suis pas quelqu'un qui fait la grève, je suis pas quelqu'un qui manifeste, mais oui, je pense que là l'union fait la force et que oui, s'ils veulent pas ouvrir le 1er décembre, il faut qu'on ouvre tous. On en a marre, ce serait pas civique, mais en fait, je vois pas pourquoi d'autres magasins, d'autres grandes surfaces ont le droit d'ouvrir. S'il y en a qui peuvent, ben moi aussi.
Voilà qui en dit long sur le désarroi des commerçants indépendants qui assurent pouvoir concilier ouverture de leurs magasins et sécurité sanitaire.
Et voilà donc pour ce reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Vous l'avez peut-être découverte la semaine dernière sur Europe 1 dans notre émission SOS Petit Commerce. Florence Kamerman est devenue le symbole des petits commerçants en quelque sorte. Elle refuse de fermer sa librairie malgré les restrictions et elle est en direct ce soir avec nous. Bonsoir madame, merci de nous accorder quelques instants en direct dans Europe Soir.
Bonsoir.
Alors, depuis votre passage sur Europe 1 dans notre émission, vous avez, je crois, reçu de nombreux soutiens, mais aussi dû affronter une nouvelle descente de police. Est-ce que vous avez été sanctionné?
Alors, effectivement, oui, j'ai eu la visite vendredi dernier suite à notre intervention sur Europe 1 et la réaction du ministre Alain Griset qui annonçait que je risquais une fermeture administrative. De fait, le lendemain, j'ai reçu la visite deux fois de la police dans la journée, une fois à 11h, une fois à 16h, me demandant si j'étais au courant de la législation, etc. Oui, monsieur, je désobéis en âme et conscience, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Sur 100 mètres carrés, je reçoit 3 à 4 personnes avec lavage de mains, masque, etc. Bon, bref, nous avons eu de nouveau la police aujourd'hui. Là, le ton est monté d'un cran puisqu'on m'a parlé de... C'était la dernière étape avant la fermeture administrative et on m'a même parlé de garde à vue. Donc bon, je me demande si le gouvernement ne mesure pas l'importance qu'a la culture aujourd'hui et surtout comment nous sommes tous atterrés, effarés. Que ce soit les auteurs qui nous soutiennent, que ce soit les lecteurs qui nous soutiennent, nous sommes tous effarés de voir que le gouvernement s'en prend à une librairie.
Mais vous êtes prête
on
à
ne
prendre,
vend pas de
madame,
la drogue, on ne vend
vous
pas.
Vous êtes prête à prendre ce risque d'une éventuelle garde à vue?
Alors, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter. Je sais que cette affaire est devenue un symbole, j'en ai conscience. Je vais consulter mon avocat, je vais consulter des proches, mon fils qui est étudiant en droit et qui, avec lequel je réfléchis souvent, et mon compagnon et moi allons annoncer notre position demain. On va se laisser une nuit de réflexion parce qu'il ne faut jamais réagir à chaud pour savoir si on va respecter ou pas cette fermeture. Qui, si on ouvre demain, oui. Naturellement, ça peut être une fermeture administrative et ça peut être éventuellement une garde à vue.
Et on suivra la suite des choses avec vous, évidemment. Hein. On restera en contact si vous le souhaitez, madame. Merci Florence Cameraman, gérante de la librairie Autour du Livre à Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Merci infiniment d'avoir témoigné ce soir dans Europe Soir.
Et pour les catholiques, en tout cas, la messe est dite. Leurs représentants ont rencontré le Premier ministre cet après-midi. Ils faisaient pression, vous le savez, pour rétablir les messes du dimanche. Eh bien, c'est non. En tout cas, pas pour l'instant, pas de reprise des célébrations religieuses avant la réouverture des commerces, c'est-à-dire pas avant, au plus tôt, le 1er décembre.
Un vaccin efficace cette fois à 94,5% après les 90% de Pfizer. Les laboratoires américains Moderna annoncent à leur tour que leur candidat vaccin est prêt à défier le Covid. Notez que le patron de Moderna, le français Stéphane Bancel, sera demain l'invité de la matinale à 7h40.
Depuis la première vague, on vous en a déjà parlé sur Europe 1, un réseau de surveillance se met en place discrètement en France. Sous terre, car le coronavirus peut être détecté dans les selles 4 à 7 jours avant l'apparition des symptômes et donc dans les eaux usées.
Oui, et bien à Marseille, les marins-pompiers analysent ainsi depuis plusieurs semaines ces eaux usées pour localiser les malades qui s'ignorent. La méthode a permis, selon eux, d'éviter l'apparition de clusters dans plusieurs EHPAD, Stéphane Frangy.
Et le premier bilan est encourageant pour le docteur Damien Thomas. Il est directeur de recherche pour le laboratoire C4 Diagnostics, le laboratoire qui gère donc l'analyse de ces prélèvements.
Cette approche a permis d'éviter un cluster dans au moins deux EHPAD que nous avons testés. Dans un endroit où, bah, vous le comprenez, la population est fragile et hautement à risque. Et en fait, cette détection a permis de mettre en place toutes les mesures de la désinfection, l'isolement, avant même que les premiers symptômes n'apparaissent.
Mais le bémol, c'est qu'en maison de retraite, eh bien, certains pensionnaires sont continent, ils sont porteurs de couches, ils ne vont pas aux toilettes. Mais peu importe, l'intérêt est ailleurs. Pour Emilien Chaya, il est directeur général du groupe Medeos. Trois de ces établissements sont encadrés par ce dispositif.
La photo que l'on va faire, bien entendu, elle ne concerne pas l'ensemble de nos usagers. Par contre, ça nous permet, par rapport à toute notre population salariale, aux visiteurs et aux familles, de nous assurer que ces derniers ne soient pas porteurs du virus. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un éclairage de scène.
Et d'ailleurs, des souches ont été détectées dans les eaux usées d'un de ces EHPAD, ce qui lui a permis d'anticiper des séries de tests qui étaient déjà programmées et donc de diagnostiquer plus tôt que prévu deux membres de son personnel qui était infecté.
Le reportage de Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Un tel outil pourrait servir par exemple lors d'un déconfinement pour anticiper une remontée épidémique. Cette annonce maintenant concernant les enseignants. Jean-Michel Blanquer promet ce soir une augmentation de 100 euros net par mois pour les profs débutants à partir de mai prochain, versée sous forme de prime. Et il confirme également l'octroi pour tous d'une prime informatique de 150 euros par an.
Europe 1. Julien Bugier.
19h08, vous restez avec nous à suivre dans votre journal l'ouverture du procès de l'attentat avorté du Thalys.
Et les accusations graves d'Emmanuel Macron contre les médias anglo-saxons.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. L'histoire a donné lieu à un film de Clint Eastwood, mais ce 21 août 2015, c'est un drame qui a été évité dans le Thalys lorsqu'un homme armé d'une Kalachnikov sort des toilettes du train.
Oui, avec l'intention de commettre un carnage piloté par le coordinateur des attentats du 13 novembre. Ayoub El-Kazani a reconnu les faits ce matin à l'ouverture de son procès, auquel vous assistez pour Europe 1, Gladys Laffitte. Une première journée lors de laquelle on s'est beaucoup intéressé à la personnalité de ce principal accusé.
Oui, à la barre, Ayoub El-Kazani est à l'aise, les mains jointes devant lui. Il répond poliment et calmement au président, mais sans trop en dire, pas plus, pas moins. Juste ce qu'il faut pour retracer son parcours semé de galères. Après 18 ans au Maroc, il rejoint à Madrid avec le reste de sa famille, son père, peintre en bâtiment, à la mentalité ancienne, dit-il. Il est totalement déscolarisé depuis des années, consomme cannabis et cocaïne, trafique, devient parano et dépressif. Pour s'en sortir, il déménage dans le sud de l'Espagne. Là-bas se trouve l'un de ses grands frères. Ils sont 6 enfants, personnage important d'une mosquée fréquentée par des radicaux. Il a confiance en lui, reçoit ses conseils sur la religion et sur l'humanité, explique-t-il. Il se réfugie alors dans la religion. Mais c'est une succession d'injustices et de rancœurs qui le mènent vers l'État islamique. Il y a encore 3 ans, Ayoub El-Kazani en parlait comme d'un mouvement, comme des Robins des Bois qui défendent un peuple massacré. Enfin, dans le Thalys, vous y étiez avec une Kalachnikov, pas avec une trousse à pharmacie, lui rétorque l'avocat général. L'accusé assure avoir pris du recul et chercher aujourd'hui le milieu dans la pratique de la religion.
Gladys Laffitte qui suit pour Europe 1 ce procès. Ouverture également aujourd'hui d'un autre procès, celui de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia. On se souvient de la mise en scène orchestrée par l'accusé qui avait cherché à maquiller son crime en une nouvelle affaire de joggeuse assassinée qui avait provoqué un retentissement médiatique exceptionnel. Et bien Jonathan Daval a confirmé en ce premier jour d'audience qu'il avait bien agi seul.
Le procès également des attentats de janvier 2015 qui devait reprendre cet après-midi, après deux semaines d'interruption, a lui été à nouveau suspendu pour une semaine.
Oui, le principal accusé présente en effet toujours des symptômes du Covid-19.
On en vient à présent à cette polémique très inhabituelle entre le président français et la presse anglo-saxonne. Emmanuel Macron n'apprécie pas le portrait fait de la France par ses médias et en particulier de sa politique de lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical.
Il a accordé un entretien au New York Times et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors les mots sont forts. Emmanuel Macron accuse la presse américaine de légitimer la violence terroriste.
Oui, mais alors parce qu'honnêtement, les titres affichés en une des deux principaux quotidiens américains au lendemain des assassinats de Samuel Paty puis des 3 fidèles de Nice étaient à la limite de l'acceptable. 4 victimes égorgées de sang-froid par des terroristes islamistes. Et de quoi s'offusque le New York Times ? Du fait, dit-il, que des policiers français aient abattu un homme dans la rue suite à une attaque au couteau. Alors donc il n'est fait mention ni de terrorisme, ni d'islamisme, ni d'attentat, pas de mise en contexte, aucune empathie, voire même plutôt le contraire, puisque les journalistes du New York Times reprennent à leur compte les arguments des groupes radicaux qui estiment que le professeur d'histoire serait partiellement responsable de sa mort pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète. C'est cela qui est une forme de justification de la violence terroriste.
Ouais, c'est cela qui a provoqué la stupeur d'Emmanuel Macron et son intervention donc auprès de la presse anglo-saxonne.
Alors oui, d'autant qu'après son discours contre le séparatisme dans la République, c'est le Washington Post qui s'en est pris à sa politique avec cette accusation en première page. La France veut réformer l'islam au lieu de combattre le racisme systémique. Alors d'abord, ça prouve que les journaux américains lisent les événements français à travers le filtre exclusif de leur propre débat politique, qui tourne autour de l'extrême violence raciale, mais que surtout, ils n'entendent absolument rien à ce qu'est la laïcité française jugée comme attentatoire à deux puissantes valeurs américaines que sont le communautarisme et la liberté absolue de culte. Les droits au blasphème ou aux caricatures réaffirmées par le président de la République sont considérées par beaucoup aux États-Unis comme des atteintes à la tolérance religieuse qui pourraient donc légitimer la virulence particulière du terrorisme islamiste à l'encontre de la France. Bon, c'est malheureusement une explication plutôt simpliste quand on sait qu'Al-Qaïda ou que l'État islamique recrutent leurs djihadistes partout sur la planète et dans tous les pays, quel que soit d'ailleurs leur rapport à l'islam, et surtout qu'ils massacrent allègrement toutes les ethnies minoritaires, souvent réduites en esclavage, depuis les yézidis d'Irak jusqu'aux Makoua du Mozambique, on se rappelle la semaine dernière. 50 personnes égorgées dans un village, en passant par les chouvas du Nigeria, c'était les 200 gamines qui avaient été enlevées dans leurs écoles. Alors donc, ces faits sont simples et têtus, et c'est ce qu'a tenu à rappeler à nos collègues journalistes américains Emmanuel Macron.
C'est quand même paradoxal quand on sait la liberté d'expression poussée à l'extrême. Justement. Des pays anglo-saxons, où il n'y a par exemple pas de loi mémorielle qui nous donne des leçons sur cette liberté d'expression-là. C'est quand même un con. Merci en tout cas Didier François, tous les soirs dans le journal de 19h.
Et puis une dernière minute, Julien, on vient d'apprendre que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait été hospitalisé à Tours. Il a été transporté hier de sa résidence d'Auton dans le Loir-et-Cher vers l'hôpital Trousseau de Tours. Les causes de son hospitalisation ne sont pour l'instant pas connues. Mais on se souvient qu'en septembre dernier, il avait déjà été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour des problèmes respiratoires. Les médecins avaient écarté à l'époque une infection au Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing, qui était sorti quelques jours plus tard, l'ancien président à 94 ans.
Merci Isabelle. Et à demain, à partir de 18h.